Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Êtes-vous un disciple du Christ? Partagez-vous ses opinions et ses croyances? Ou bien rejetez-vous ce que le Christ croyait et observez-vous ce que Jésus condamnait? Avez-vous jamais pris la peine de vérifier? Dans notre monde moderne, les doctrines et croyances bizarres abondent. Pensez-vous que les gens prennent la peine de les vérifier avant de les adopter? Savez-vous que certaines croyances loufoques, sans le moindre fondement biblique, se retrouvent dans la plupart des religions chrétiennes? Certains croient qu'ils iront au ciel. D'autres pensent que les végétaux, les animaux, l'homme sont le résultat d'un processus d'évolution. Que de croyances différentes ne découvrez-vous pas dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, et même au sein de votre famille? Certains sont convaincus qu'il y aura un enlèvement secret, tandis que d'autres ne croient pas en la divinité du Christ. Il y en a qui sont persuadés que seul le corps meurt et que l'âme s'échappe de celui-ci pour aller rejoindre Dieu au ciel, sans oublier ceux qui s'imaginent qu'ils se réincarneront dans un autre corps. Il est évident que tous ne peuvent pas avoir raison et que toutes ces croyances ne peuvent pas être la vérité. Vos croyances sont-elles bien la vérité? En êtes-vous certain? Faut-il s'étonner de ce que l'Écriture déclare au sujet de Satan? Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez que l'emprise de Satan n'est pas négligeable. Elle s'étend sur toute la terre. Êtes-vous certain de ne pas être sous cette emprise, sous sa séduction, sous sa fascination, sous son charme? Sans même vous en rendre compte, une personne séduite ne se rend pas toujours compte qu'elle l'est. On oublie trop souvent que Satan est le dieu de ce monde. Cependant, c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le monde a été séduit, et sans s'en rendre compte, il vit dans les ténèbres spirituelles. Dieu a annoncé par l'intermédiaire d'Ésaïe, « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas le vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. » Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Votre religion est-elle de traditions humaines ou est-elle fondée sur la parole de Dieu? Alors qu'il était sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean décrit sa vision. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Que sont ces grandes eaux? La Bible nous répond, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Êtes-vous certain de ne pas faire partie de ces foules séduites? Pour vous en assurer, vous devez vérifier la véracité de vos croyances. De nombreuses superstitions se sont glissées dans l'enseignement chrétien traditionnel. Combien sont persuadés posséder une âme immortelle qui risque d'être tourmentée éternellement dans un feu sans fin? D'autres croient qu'ils iront un jour au ciel, où leur pousseront des ailes, et ils joueront de la harpe, assis sur un nuage, en ne cessant de contempler le Seigneur. Beaucoup de gens s'imaginent que le démon a des cornes, et une queue fourchue, et que les anges ont une auréole derrière la tête. Combien de gens pensent être bons chrétiens en allant à l'église ou au temple chaque dimanche? Noël et les Pâques sont pour eux les deux fêtes chrétiennes les plus importantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Mais plus important encore, qu'en pense Dieu? Lorsqu'on examine les Écritures en profondeur, on est étonné. On se rend compte que toutes ces croyances, toutes ces superstitions sont vides de sens. Elles émanent du paganisme alors qu'elles sont considérées comme des vérités par ceux qui sont séduits, aveuglés par le Dieu de ce siècle. Vous qui m'écoutez ce matin, apprenez-vous réellement quelque chose d'important, d'essentiel au sujet de votre salut, particulièrement à l'époque de Noël, pour ne prendre que cet exemple? Avez-vous la moindre idée de ce que sera ce monde dans un proche avenir? Pourquoi êtes-vous né? Le savez-vous? Si vous n'étudiez pas les Écritures, vous ne pouvez pas connaître la réponse à ces questions. La vérité émane de la parole de Dieu. Elle est une arme qui permet d'identifier les fausses doctrines et de les combattre. C'est aussi dans sa parole que Dieu révèle son grand plan. L'apôtre Jean a écrit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Participez-vous aux mauvaises œuvres du monde? Aux mauvaises œuvres de ces si nombreuses religions chrétiennes qui, avec leurs doctrines si variées et si divergentes, sont en discordance, en opposition avec la doctrine de Christ. La doctrine de Christ n'a rien à voir avec l'enseignement au sujet de sa personne, avec les histoires sentimentales sur la naissance du petit Jésus qui ont pris le pas sur les doctrines qu'il a révélées et enseignées. L'apôtre Paul a écrit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Christ est la parole. Par conséquent, les véritables doctrines du Christ sont révélées dans les Écritures inspirées, non dans les superstitions, dans les anciennes traditions qui ont été adoptées par le christianisme pour attirer les masses, ou dans les idées humaines. L'apôtre Paul a écrit: il y a une seule foi. L'ensemble des doctrines forment une vérité harmonieuse. Elles ne peuvent se contredire. Connaissez-vous l'origine des doctrines auxquelles vous croyez? Une des doctrines bien ancrées dans le monde est l'espérance d'aller au ciel après la mort. On croit que le ciel est la récompense de ceux qui seront sauvés. Depuis des générations, cette croyance est inculquée dès l'enfance et nombreux sont ceux qui s'y accrochent, sans la vérifier dans la parole de Dieu. C'est pourtant Satan, le diable, qui est obsédé par cette idée. Lucifer régnait sur terre, mais il n'était pas satisfait du poste qu'il occupait. Il voulut usurper le trône de Dieu. L'Écriture relate: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant », de l'hébreu « Eilel », signifiant « Lucifer, celui qui apporte la lumière ».« Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ». Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Après sa rébellion, Lucifer vit son nom changer en Satan, l'adversaire, et il se lança dans la conquête, la séduction du monde en distillant, inculquant cette doctrine dans l'esprit de millions de gens. C'est ainsi que les gens pensent que le Christ avait promis aux malfaiteurs sur la croix qu'il serait le jour même au paradis. Ce n'est pourtant pas ce qu'il promit. Si vous souhaitez recevoir notre étude gratuite sur ce sujet, il vous suffit de nous la demander et nous vous l'expédierons. Le ciel ne sera pas la récompense de ceux qui seront sauvés. En effet, le Christ a déclaré: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. L'apôtre Jean a, quant à lui, déclaré que les saints régneront sur la terre. L'idée d'aller au ciel émane de Satan et non de la parole de Dieu. Que dire de la Trinité? Ce mot ne figure même pas dans la Bible. La nouvelle encyclopédie catholique Théo déclare sous le titre « Les étapes de la formulation de la pensée sur la Trinité ». Pour arriver à ces formulations, il a fallu 4 siècles. Le Concile de Constantinople affirma, lui, clairement, que le Saint-Esprit était de même nature, consubstantielle, que le Père. Fin de citation. 4 siècles pour en arriver à la Trinité. Dans la Bible du chanoine Crampon, nous lisons dans la première épître de Jean, « Car il y en a 3 qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. » Dans le commentaire au bas de page, cette version ajoute, « On ne trouve pas les mots mis entre crochets dans aucun manuscrit grec antérieur au XVe siècle et dans aucun manuscrit de la Vulgate antérieur au VIIIe siècle. » Fin de citation. C'est au VIIIe siècle qu'un copiste ajouta ce qui précède dans le but de propager cette doctrine païenne. On ne trouve plus ce passage dans la version moderne. Certains en viennent au texte suivant. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si des copistes n'ont pas hésité à surcharger d'un ajout le texte de l'apôtre Jean, afin de justifier l'idée d'une trinité, n'en est-il pas de même dans ce passage tiré de l'évangile de Matthieu? Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas adopté cette formule? Le livre des Actes rapporte qu'ils se contentaient de baptiser au nom de Jésus-Christ, ou encore au nom du Seigneur Jésus, mais ils ne mentionnent pas le Saint-Esprit. Avons-nous une âme immortelle alors que le prophète Ézéchiel a écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». La mort est l'absence, la cessation de toute vie et non la continuation de la vie dans des circonstances différentes. Jésus a ajouté « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dans ce passage, le mot « périr » est traduit du grec « apolloumi » qui signifie « détruire totalement ». Si l'âme et le corps peuvent être détruits totalement, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont immortels. La géhenne est l'étang de feu dans lequel les méchants seront détruits définitivement de la troisième résurrection. C'est ce que l'Écriture révèle. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. » Il ne leur laissera ni racines ni rameaux, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Ce jour qui verra la destruction définitive des méchants est décrit dans la parabole du mauvais riche et Lazare. Elle est expliquée dans une étude gratuite qu'il vous suffit de nous demander. Le péché d'Adam s'est-il transmis à ses descendants, comme le croient certains? La Bible déclare « L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Il ne mourra pas d'une mort éternelle. Il est exact, comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, que le péché est entré dans le monde lorsque Adam a péché, et la mort éternelle s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Chaque homme est donc responsable de ses propres péchés, comme le prophète Ézéchiel l'a écrit. Jésus a déclaré, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Éliminez toutes ces superstitions de vos croyances et découvrez la grandiose destinée que Dieu réserve à ceux qui se soumettent à lui. »